Bonjour et bienvenue au balado « Mieux connaître, mieux choisir », une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, permettant de découvrir plusieurs métiers du marché du travail. Donc, bonjour, bienvenue au podcast « Mieux connaître, mieux choisir ». Donc, aujourd'hui, nous recevons Sophie Genois, qui est directrice à la Maison des jeunes de Pont-Rouge. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, je suis accompagnée aussi de ma collègue Natacia.
Bonjour. Donc, d'entrée de jeu, on peut y aller déjà avec la première question. On aimerait savoir là, en quoi consiste ton métier, donc la vision des autres là, versus la réalité.
Je suis directrice à la Maison des jeunes. Donc, mon rôle est de planifier, organiser, c'est de contrôler, évaluer l'ensemble des activités de l'organisme. Fait que je suis responsable de la gestion des ressources humaines, donc de l'équipe de travail composée d'animateurs intervenants. Je suis aussi responsable là, des lieux physiques, matériels, de la situation financière aussi de la Maison des jeunes, en étroite collaboration avec le conseil d'administration.
Et j'avais une question, en fait. Peut-être qu'on peut préciser qu'est-ce que c'est une Maison des jeunes, tu sais, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas vraiment c'est quoi. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi?
Oui, effectivement, c'est un bon point. La Maison des jeunes là, est un milieu de vie. Pour les 10 à 18 ans à Pont-Rouge, là, c'est la clientèle là, que nous avons ciblée. Quoique, on n'offre pas nécessairement les mêmes services aux 10-12 ans, 12-17 et les 18 ans. C'est un organisme communautaire à but non lucratif. C'est vraiment la composition d'un conseil d'administration qui gère l'ensemble là, des activités, qui a la responsabilité de la personne morale. Donc, nous sommes indépendants là, du réseau soit public, parapublic.
Donc, merci, c'est super intéressant. Donc, à quoi ressemble ton parcours au niveau scolaire et professionnel?
D'abord, je suis une technicienne en travail social. Donc, j'ai gradué en 2007 là, au Cégep de Sainte-Croix. Pendant mes études, je travaillais déjà dans une maison des jeunes, qui n'est pas celle de Pont-Rouge, là, mais celle de Saint-Raymond. Et en même temps, je faisais aussi des remplacements là, pour la commission scolaire de Portneuf comme technicienne en éducation spécialisée. Quand j'ai gradué, déjà, là, il y avait des postes qui s'offraient à moi là, au niveau de la commission scolaire. Donc, on m'a embauché sur différents postes. Donc, c'est sûr qu'au niveau des écoles, le roulement, c'est quand même assez difficile avant d'avoir un poste là, qui est permanent. En fait, ça prend plusieurs années. Et comme la précarité de l'emploi m'amenait à avoir un budget qui était un petit peu plus difficile à gérer, j'ai poursuivi mon emploi à la Maison des jeunes à Saint-Raymond. Et je travaillais aussi en restauration. Donc, j'avais souvent là, 3-4 emplois en même temps. Ce qui fait que les premières années, ça a été quand même assez difficile là, avant d'avoir quelque chose qui était vraiment lié à mon domaine et qui m'amenait vraiment une sécurité d'emploi. Mais quelques années plus tard, là, je pense que c'est 4. Oui, j'ai commencé en 2009 à travailler à la Maison des jeunes de Pont-Rouge et le coordonnateur qui était là dans ce temps-là, qui est venu me chercher, qui m'a approché là, pour prendre sa place là, au sein de la Maison des jeunes, qui avait parlé de moi positivement au conseil d'administration à l'époque. Et comme on avait travaillé ensemble là, sur différents projets dans Portneuf, là, au niveau de la table d'action préventive jeunesse, il savait un peu là, quel genre de personne j'étais. Alors, on m'a approché pour ce poste-là et finalement, j'ai accepté. En ne sachant pas tout à fait quelle était la hauteur du défi qui m'attendait. Mais je suis vraiment contente là, de l'avoir fait. Ça fait quand même 12 ans, ça fait 12 ans que je suis là. Fait que c'est loin d'être quelque chose là, que j'ai regretté. Quand j'ai commencé le poste, je me rendais compte aussi de certaines lacunes que j'avais au niveau de mes compétences, de mon savoir. Alors, je suis allée à l'université pour faire un certificat en dépendance. Donc, c'était vraiment plus au niveau de la clientèle. Je voulais être en mesure de mieux encadrer mon équipe, d'apporter vraiment une formation continue. Donc, je l'ai échelonné là, sur 3 ans. 4 ans parce que c'était à l'Université de Sherbrooke. Donc, comme il y avait des cours en présentiel, campus de Lévis, mais il y avait des cours à distance et à mi-chemin. Le certificat ne se donnait plus à distance. Alors, j'ai dû le terminer à Sherbrooke, ce qui est un peu complexifié. Mon horaire. Alors, c'est pour ça là, que je l'ai fait sur plus longue période. Et je me suis inscrite aussi à plusieurs formations au niveau de la gestion de nos BNL parce que quand on fait le cours de technique en travail social, on travaille beaucoup sur le volet communautaire. Ça, pour moi, c'était du connu, c'était correct, c'était quelque chose qui me rejoignait. Sauf qu'au niveau de la gestion, j'aime le travail d'équipe, mais c'était au-delà de ça, c'était au-delà de mes valeurs personnelles, c'était de faire la transition entre le conseil d'administration, l'équipe de travail, les jeunes, d'armer tout ça ensemble. Je me sentais souvent prise entre l'arbre et l'écorce, donc j'avais vraiment besoin d'aller me perfectionner et je le fais encore aujourd'hui, là, d'aller chercher des outils de travail. Pour moi, la formation continue, elle a vraiment son importance là, dans mon travail en tant que leader, mais aussi en tant que professionnel, d'être toujours à jour aussi là, de ce qui se passe là, dans le milieu de vie, mais aussi au niveau des professionnels qui travaillent avec moi, au niveau de l'organisation communautaire, c'est quand même assez large. On touche quand même plusieurs volets. Donc, et voilà, c'est la formation continue est essentielle au maintien et au développement du savoir et des compétences pour moi puis pour mon équipe.
On aimerait savoir aussi à quoi ressemble une journée type, puis quels sont les défis qui se présentent là, au quotidien.
La journée la plus importante est vraiment le lundi. Le lundi, c'est la journée où on est fermé à la Maison des jeunes. C'est une journée où je suis seule au travail la plupart du temps. Et ça me permet vraiment de bien starter ma semaine. Je regarde mon agenda premièrement. Je regarde les rendez-vous qui sont à venir. J'essaie d'organiser le temps que ça prend à préparer telle rencontre, telle réunion. Il y a beaucoup de documents à lire souvent ou de se remettre dans le bain parce que c'est un comité qui date il y a quelques mois, le temps a passé. Fait que c'est vraiment pour se mettre à jour. Fait que le lundi, premièrement, c'est de regarder ma semaine. C'est vraiment une semaine à la fois. Le lundi sert aussi de moment, en fait, pour regarder, mettons, la Maison des jeunes. Le lundi sert vraiment à l'organisation de la semaine, comme je disais, à la tournée du bâtiment. Étant gestionnaire et d'un bâtiment qui est indépendant, quoique nous avons quand même un soutien là, de la ville au niveau de l'entretien, mais comme ça revient à mes yeux, à moi, de vraiment de m'assurer que tout est sécuritaire et que tout est bien entretenu, je fais vraiment une tournée là, des lieux, donc à l'intérieur et à l'extérieur, et j'achète le matériel là, où je fais une demande là, à la ville pour m'assurer là, que tout est conforme. Comme exemple, la semaine dernière, on s'est rendu compte là, que ça faisait 2 jeunes qui glissaient dans les escaliers quand à l'extérieur, là, il avait plu. Donc, on s'est rendu compte que l'anti-adhésif là, ne fonctionnait plus bien. Donc, pour m'assurer qu'il n'y ait pas un accident et que ça ne se répète pas, ben, j'ai demandé là, de venir installer là, des barres anti-dérapantes plutôt. Donc, c'est un exemple, là, mais je m'occupe aussi du papier de toilette, essuie-tout, les masques, les produits d'hygiène. Bon, c'est vraiment un tout quand on parle de la gestion matérielle et physique, là, ça inclut aussi ça, la propreté aussi des lieux. Je m'assure que l'équipe de travail fasse bien leur routine de fermeture et au niveau des règles aussi là, d'hygiène et sanitaire là, avec les recommandations de la santé publique. Ensuite, cette journée sert vraiment à faire le retour des appels que j'ai reçus, les nombreux courriels qu'on reçoit. Je lis aussi le rapport quotidien de l'équipe. Ça, c'est vraiment un élément clé pour la semaine. C'est que je regarde, on a comme des codes de couleurs dans ce rapport-là. L'équipe l'utilise comme moyen de communication entre elles et entre moi aussi, sur des situations qui se sont passées avec des jeunes, des questionnements qu'ils ont eu, des observations, des hypothèses. Et moi, je vais puiser dans ce rapport-là pour organiser la réunion d'équipe là, que nous avons chaque semaine. Fait que c'est vraiment le lundi là, que ça se passe. Et ben, tu sais, au travers de ça, il y a aussi le service de paye. Donc, le lundi, c'est vraiment une grosse journée. Mais, là, tu sais, je dis ça toute la même journée, mais ensuite, on priorise et on regarde, bon, il y a des choses qui peuvent se faire le lendemain, le surlendemain, mais il y a vraiment des incontournables là, qui doivent se faire là, parce que c'est souvent moi qui va l'idée le reste de la semaine et ce que les autres ont à faire là, dans leurs tâches. Fait que semaine type, là, tu sais, au travers de toutes les comités de travail qui se présentent, une journée type peut quand même ressembler à ça.
Puis, j'ai une question par rapport à l'équipe de travail. Combien de personnes tu as à ta charge ou à ta responsabilité? Parce que tu sais, tu le nommes depuis tantôt, là, l'équipe, puis tout ça, les tâches que tu as à redistribuer, mais il y a combien de personnes avec toi?
Dans l'équipe de travail, présentement, nous sommes 4. En fait, il y a moi, il y a une responsable à l'animation et 3 animateurs intervenants. Donc, on a vraiment pris le temps de définir le mandat que nous avons. Et Marie-Hélène, qui est ma responsable à l'animation, et moi, on travaille vraiment en étroite collaboration et elle s'occupe vraiment plus du volet milieu de vie, plancher, activité, intervention. Et moi, je m'occupe vraiment plus du côté administration, gestion. Donc, tu sais, c'est vraiment un travail qui se complète. Les animateurs intervenants, ce sont tous des personnes là, qui ont fait un parcours professionnel, scolaire dans l'intervention. Donc, la relation d'aide, l'intervention informelle, j'en ai en psychoéducation, j'en ai eu au bac à la maîtrise, aussi en orientation. Et c'est quand même assez varié, mais tout ce qui touche le domaine de l'intervention sociale. Fait que c'est des gens qui sont formés là, dans ce domaine.
La relation d'aide.
Oui.
Et dans le fond, tu as parlé un peu de ta formation là, au niveau de la technique en travail social et aussi du certificat que tu as fait. Suite à, dans le fond, à cette formation-là, y a-t-il d'autres milieux dans lesquels tu aurais pu exercer, que ce soit connu ou moins connu?
Oui. Mettons, si on repart du principe en travail social et pas nécessairement en gestion, il y a quand même plusieurs milieux là, où on peut exercer, entre autres, il y a le CIUS. L'ensemble des organismes communautaires là, qui ont un volet, une vocation sociale, les institutions scolaires, il y a plusieurs ministères aussi comme Emploi Solidarité. Si on tombe plus au niveau de la gestion, il y a quand même des domaines où c'est un petit peu plus contingenté, qui demande un peu plus le bac. Mais je pense que l'expérience est encore tenue en compte là, lors des autres emplois. Mais oui, il y a quand même plusieurs possibilités là, de domaines. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres que vous connaissez et que je ne connais pas, mais spontanément, c'est ceux-là qui m'ont venu en tête.
Moi, je pense que ça fait les grandes familles, là, les grands secteurs dans lesquels on peut exercer au niveau de la fonction publique, puis au niveau du milieu communautaire aussi. On aimerait savoir aussi, ben, à la base, quand tu as débuté là, ta technique en travail social, qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là?
Hey, c'est vraiment le côté humain. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu cette capacité à rejoindre les jeunes. J'ai une aisance aussi à rentrer en contact avec eux. Je suis fascinée par les différents traits de personnalité, de caractère. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Au contraire, je suis comme curieuse d'en apprendre. Ce n'est pas nécessairement d'analyser les gens, mais plus parce qu'on a tous des différences. Puis je trouve ça fascinant de voir qu'on est tous uniques. C'est vraiment le volet social qui, en partant, m'intéressait. Je trouve qu'en faisant ce travail, chaque petit geste qu'on pose, chaque parole qu'on peut avoir, chaque attention qu'on peut accorder, elle fait vraiment une différence. Parfois, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est apparent parce qu'il n'y a pas de métier pareil, mais comme c'est pas un métier qui apporte un contenu fini, réel, exemple comme un travail à la chaîne qui amène un produit défini, des fois, c'est des petites graines qu'on sème qui va faire un bout de chemin et qui peut prendre du temps avant d'apporter un bienfait, mais on finit par le savoir quand même que par des partages d'anciens jeunes qu'on côtoie ou que je rencontre encore aujourd'hui, que j'ai eu à l'école ou que j'ai eu comme intervenante moi-même. Ça prend plusieurs années des fois, puis ils reviennent, tu sais, un jour tu m'as dit ça. Puis j'y pense depuis ce temps-là. Tu sais, pour moi, c'est ça ma paye. Fait que je pense que le côté social, c'est abstrait, c'est très confrontant dans nos valeurs aussi. Ça vient me chercher, mais ça nous fait tellement évoluer en tant qu'individu. Puis on dirait que finalement, on fait ça aussi avec les personnes qu'on aide. Parce qu'on est aussi aidé au travers de ça. Fait que je trouve que c'est enrichissant. C'est ce qui m'a amené là, puis c'est ce qui m'amène encore aujourd'hui à aimer mon travail.
En fait, ce côté-là, ben probablement, c'est ce qui t'a motivé initialement quand tu as initié des études en technique de travail social. Là, tu sais, au fil des années, tu occupes un poste plus de direction, de gestion. Est-ce que ce besoin-là est toujours comblé malgré le fait que tu t'es un petit peu éloigné du côté relation d'aide auprès de la clientèle?
Oui, je dois admettre très honnêtement que j'ai eu un deuil à faire. Dans le sens que j'étais vraiment une personne très active, très proche. Pour moi, c'était important de faire du terrain. Et une des premières choses que je me suis rendu compte, c'est que je m'éloignais beaucoup des jeunes par mon travail parce que ça demandait à temps plein. Tiens, mon poste est de 35 heures semaine, mais les premières années, facilement, j'en faisais 45, 50, 55 heures par semaine parce que je voulais vraiment maintenir cette proximité-là. Et je me suis rendu compte que je pouvais être aussi aidante, puis autant faire une différence, mais en travaillant à un autre niveau. Et j'ai fini par accepter et être même confortable dans ce rôle-là. Mais au début, ça a été vraiment un petit raillement, là. C'est au final, pour que quelqu'un finisse par me dire, tu sais, maintenant, ton travail, c'est vraiment d'être gestionnaire, puis c'est correct d'être proche, parce qu'il faut quand même être témoin de ce qui se passe, parce que je trouvais que c'était impensable de ne plus être sur le terrain, puis finalement m'éloigner d'une réalité qui pourrait m'amener à prendre des décisions qui ne sont pas du tout adaptées. Fait que j'avais cette préoccupation-là. Quand je vous disais que je me retrouvais parfois entre l'arbre et l'écorce, c'est que j'avais ce désir-là qui était comme très inné chez moi. Mais je me suis rendu compte qu'en accompagnant mon équipe, puis en étant plus proche d'elle, c'est mon équipe qui m'amenait les besoins, qui était le porte-parole, qui avait cette conscience-là de m'apporter la vision des jeunes et tout ça. Et en ayant un jeune sur le conseil d'administration, parce qu'il y a un poste réservé au niveau de la jeunesse, c'était aussi un pont très important qui faisait que même pour les administrateurs qui ne côtoient pas au quotidien nos jeunes, ben, pour qu'ils prennent des bonnes décisions, il fallait qu'il y ait quand même une certaine proximité avec les jeunes. Fait qu'on a utilisé, on a renforcé le comité jeunesse pour en venir avoir un porte-parole sur le conseil d'administration. Et en étant plus proche de mon équipe, en ayant implanté une réunion d'équipe à chaque semaine, parce que ce n'était pas le cas avant, en fait, c'est que j'ai juste changé la façon de travailler qui me permettait d'avoir encore ce lien-là. Parce que oui, je ne pouvais plus avoir le chapeau d'intervenante et d'avoir des suivis individuels avec des jeunes. Je ne pouvais pas poursuivre ce mandat-là parce que je n'étais plus capable d'avoir le côté objectif quand c'était le temps de prendre des décisions parce qu'il y a le côté finance. Puis dans une journée type, ben j'ai aussi à concilier le budget, les prévisions qu'on a fait en début d'année. On est rendu où? Au niveau des ressources humaines, j'ai une banque d'heures qu'on a calculée dans la nuit. Il y a tel besoin. OK, est-ce que je suis capable d'augmenter un petit peu les heures de telle personne pour en venir à faire tel projet ou telle continuité avec les jeunes? Alors que j'ai un budget à gérer, alors qu'il y a cette dépense-là qui n'était pas prévue. Ah, OK, on est allé chercher un financement ailleurs. OK, oui, fait que tu sais, je jongle avec beaucoup de sphères qui faisaient que en ayant des jeunes à proximité de moi, je n'étais pas capable de faire... en fait, j'avais beaucoup de difficultés à décrocher rendu chez moi. Tu sais, je pense qu'avec les années, ça a été ça. C'est des méthodes de travail. Et comme je suis très proche de mon équipe, très proche du conseil d'administration, au final, je finis quand même par avoir une certaine proximité avec les jeunes. Je les salue, je les côtoie, mais je suis toujours en second plan.
Donc, ton rôle s'est un peu transformé au fil des années, puis tu réussis quand même à pouvoir avoir un accomplissement au niveau social par l'entremise de ton équipe du conseil d'administration.
Oui. Je pense que même mon temps d'impact, c'est que je travaille à un autre niveau. Aux yeux des jeunes, certains me connaissent. Tu sais, la majorité me voit physiquement, mais il y en a qui ne retiennent pas nécessairement mon nom. Puis, avec le temps, j'ai fini vraiment par faire la paix avec ça. Je suis très confortable. Puis, c'est correct parce que moi, c'est avec mon équipe que je veux qu'ils créent des liens significatifs et non avec moi parce que je ne pourrais pas leur apporter et répondre à leurs besoins immédiats. Moi, je vais être plus là pour m'assurer que leurs besoins soient répondus de d'autres manières.
Et outre l'impact que tu as en fait sur ton équipe ou sur les jeunes, tu sais, inévitablement, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton travail? As-tu d'autres éléments là, que tu dis « Ah oui, ça c'est sûr que j'apprécie ça? »
Bien, ce que j'aimais dès le départ, je l'aime encore. Fait que je pense que je suis encore à ma place. Ce que j'aime, c'est d'avoir des projets novateurs, d'être avant-gardiste, d'avoir l'imagination pour... Moi, c'est ce qui m'anime. En fait, faut que ça bouge. Puis, ma responsable de l'animation a vraiment le côté très créateur, côté artistique. Qui me complètent tout à fait. On a vraiment des personnalités qui se complètent et à deux, parce que je dis à deux parce qu'on est ensemble depuis 11 ans. Fait qu'on a créé vraiment une synergie, mais avec chaque personne qui travaille avec moi apporte une couleur qui teinte toute la dynamique. C'est ce que j'aime du travail d'équipe parce que chaque personne apporte vraiment son côté et présentement, j'ai une équipe en or qui m'alimente énormément, qui arrive avec des idées en réunion. Puis ça, c'est quelque chose qui a évolué aussi avec le temps. C'est que avant, j'arrivais avec les points à l'ordre du jour de ce qu'il fallait parler. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup les filles qui m'amènent les points à discuter. Puis pour moi, ça, c'est très riche. Que j'aime beaucoup de mon travail, oui, c'est le travail d'équipe. Même s'il y a un autre côté à la médaille, parce que des fois, c'est pas évident, parce que travailler avec des humains, ça amène aussi le côté personnel, le côté individu, qui ont chacun leurs besoins, que parfois, on a des décisions à prendre dans l'intérêt de l'organisme, et c'est de voir et de prioriser, finalement, je réponds à quel besoin et quel besoin le plus important dans l'immédiat. Fait que parfois, c'est quand même des décisions... qui sont... C'est des dilemmes, là. C'est pas toujours coupé au couteau, mais il faut des fois en venir à prendre ces décisions-là. Mais le côté social, je le retrouve beaucoup avec mon équipe et avec le conseil d'administration. Et la plupart des membres du conseil d'administration sont là depuis 28 ans d'action. Et la latitude qu'on peut avoir est tellement grande qu'on s'assoit ensemble, OK, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis comment on pourrait faire autrement? Puis là, on s'assoit tous ensemble, puis on... OK, go! Maintenant, tu sais, on fait quoi? On essaie des choses. Pour moi, ça, c'est un autre volet. Et la flexibilité aussi de mon horaire. En étant maintenant maman, j'ai appris, oui, à mettre certaines limites au niveau de mon mandat, de mes disponibilités, parce qu'avant, faire des 50 heures semaine ne me dérangeait pas du tout. Je pouvais rentrer au moment que je le voulais. En étant maman, c'est sûr que ça l'a resserré un peu parce que j'ai des obligations maintenant parentales. Je dois être assidue dans une routine. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais je pense que c'est pas mal ça. En gros.
Super, mais en fait, en résumé, là, si on peut dresser, là, faire un résumé de ce que tu apprécies dans ton travail, je pense que ça transparaît beaucoup là, ce que tu nous partages, que tu es encore animé par ton mandat. Là.
Oh oui.
Donc, on peut, tu sais, te parler au niveau de la gestion de projet, donc, tu sais, d'être capable de mettre en place puis d'avoir une créativité pour pouvoir gérer puis mettre en place des projets qui sont novateurs puis adaptés à la clientèle. Tu as parlé aussi du travail d'équipe, du travail de collaboration, parce que chaque personne, tant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau de l'équipe, ben, vient mettre son grain de sel là, au niveau de la stabilité de l'organisation. La rapidité de décision aussi, c'est un plus au niveau du communautaire de pouvoir prendre des décisions de façon rapide, toujours de concert là, avec le conseil d'administration puis l'équipe, mais tu sais que vous pouvez mettre en place des choses assez rapidement. Puis, la conciliation travail-famille aussi, c'est quelque chose que tu apprécies, là, surtout dans un contexte de parentalité.
Oui.
Est-ce que tu as fait un résumé?
Très bien résumé, finalement.
super. Puis, en contrepartie, on aimerait savoir, là, c'est quoi les principales qualités à avoir là, pour exercer ce métier-là?
Ah, définitivement, du leadership. Ça, c'est sûr qu'au niveau de la gestion, c'est un rôle qui est très... parce que j'ai jamais aimé avoir cette hiérarchie de dire que j'étais la patronne, je suis la boss. Je n'aime vraiment pas ça parce que je trouve qu'on a chacun vraiment un rôle à jouer qui est nécessaire. Par contre, quand c'est le temps de s'assurer que tout se passe bien, comme je suis responsable, je me dois d'avoir un leadership. Beaucoup d'organisations vont être capables de se dire, OK, je rentre travailler, on est lundi, il arrive telle chose imprévue au travers de tout ce qui était déjà cédulé. Comment je vais organiser la semaine alors que je sais que mon équipe est en activité, il y en a une qui était déjà sur le conseil d'établissement scolaire telle soirée alors que finalement une rencontre super importante sur des enjeux politiques, sociaux qui se présentent. Comment on va arrimer tout ça? Il faut vraiment avoir des méthodes de travail. Fait qu'il faut avoir cette facilité à mettre sur papier, parce que je suis encore de la vieille école, que moi, j'aime travailler avec le papier, j'aime encore écrire, et d'organiser tout ça. Comment y arriver? C'est beau être organisé, mais il faut avoir le sens de la stratégie pour dire que des fois, je vais faire cette petite chose tranquillement et qui va m'amener un produit en étant très patient. C'est ce que je pratique encore aujourd'hui, moi, la patience. Moi, je suis rapide. Tu sais, j'aime que ça soit efficace, j'aime qu'on soit en action. Mais avec le temps, on développe vraiment des stratégies pour que le petit train va loin et le résultat est souvent plus promoteur que si on avait été rapide, tu sais, à agir. Une des choses que j'ai rapidement aussi... que je me suis beaucoup aperçue rapidement au début, c'est que j'étais seule. Malgré le fait que le conseil d'administration me faisait beaucoup confiance, était disponible, quand tu arrives dans un poste où ce que toi, tu es intervenant de métier, établir ton lien, on a des approches dans lesquelles on est plus à l'aise. Mais quand tu tombes dans un volet administratif, que tu t'assoies devant un paquet de demandes de financement à faire, à remplir, on a des... Tu sais, il y a quand même un côté administratif qui est très fort. En étant un OBNL, c'est que nous sommes indépendants. Fait que ça veut dire que le niveau d'autonomie est vraiment grand et tout repose sur les gens qui travaillent. Fait que quand on a des obligations au niveau du gouvernement, quand on parle, exemple, de services de paie qu'on fait pour les employés, mais aussi la part de l'employeur qui est importante, on a des déductions, on a des avantages sociaux et tout ça, on a des comptes à rendre, on a des paiements à faire. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que la gestion financière. Oh mon Dieu, tu sais, ça, tu nommais justement que tu sais, le communautaire, on a une rapidité d'action, c'est que rapidement, on peut se revirer sur un discerne, mais pour ça, il faut avoir la facilité Oui, avoir le problème, mais quelles sont les solutions? Puis go, on se met en action. On va être ouvert d'esprit aussi parce qu'on travaille avec une clientèle jeunesse qui est en constante évolution. C'est pas les jeunes d'avant, c'est pas comme dans mon temps. Ça sera jamais ça et il faut être ouvert à ce changement, même autant au niveau de l'équipe de travail. Faut être ouvert aussi à travailler avec leurs forces et avec faiblesse, j'aime pas dire ça, mais avec leur nouvelle réalité, je pourrais le nommer de cette façon-là. Puis d'avoir de l'entre-gens, du dynamisme, faut être de bonne humeur, faut rendre le travail plaisant. Puis je pense que plus on vieillit, plus qu'on a envie de travailler dans un domaine qu'on aime. Pas nécessairement qu'il soit payant, tu sais, le plaisir qu'on y retrouve, d'avoir le sentiment d'accomplir quelque chose. C'est ça. C'est vraiment ça qui fait que quand on revient à la maison, puis que finalement on veut passer du temps avec notre famille, nos enfants, ben c'est peut-être plus facile de faire la coupure aussi, de dire ben, j'ai tellement passé une belle journée, mais que de ramener constamment une certaine amertume ou une certaine frustration.
Un peu dans le même ordre d'idée, ce serait quoi, en fait, selon toi, les valeurs qui sont reliées à ton métier, qui sont importantes pour toi?
L'ouverture, l'engagement, c'est une valeur sur laquelle et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on a travaillé fort au sein du conseil d'administration, c'est de mettre sur papier, d'organiser une politique de travail. Il n'y avait pas ça avant. Puis ça a été un des grands accomplissements, je pense, dans mon travail. C'était de mettre sur papier les conditions de travail des employés afin de ne pas faire du cas par cas. Il faut que ça soit clair pour tous. Et comme on voyait ça un peu comme un contrat mutuel, tu sais, les employés le lisent, posent des questions pour s'assurer que tout est clair, tout est compris là-dedans. Quand ils signent, c'est qu'ils s'engagent. Et l'engagement que moi, j'avais besoin de sentir au niveau de mon équipe, et je suis aussi allée la chercher là, c'est ce que l'employeur, la Maison des jeunes, s'engage à faire et que l'équipe s'engage aussi à faire pour que ce qui est écrit soit équitable pour tous. Je pense que la question de confiance est grande aussi et l'évolution, je ne sais pas si c'est une valeur, l'évolution, mais peut-être être ouvert à cette évolution, quoique l'ouverture, c'est à la base de beaucoup d'autres choses, mais ça serait ça. Ouverture, engagement, équité, évolution, confiance.
Ça fait un beau résumé de plusieurs valeurs importantes. Au niveau des gens avec qui tu es appelé à collaborer, tu as parlé beaucoup là, justement de ton équipe immédiate de travail et du conseil d'administration. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires ou d'autres acteurs avec qui tu es quotidiennement appelé à collaborer?
Oui, en fait, la ville, comme j'ai nommé un peu plus tôt, elle est un partenaire financier. Je représente la jeunesse. Je suis souvent sollicitée avec les écoles pour qu'il y ait une certaine continuité de service, de m'assurer que leurs droits soient aussi défendus, soient promus. T'sais, des fois, les jeunes ne sont pas toujours. C'est les ados, surtout. Les Maisons de jeunes de Québec, on fait partie d'un regroupement de Portneuf à Charlevoix. Au niveau des organismes communautaires aussi, Rock 03 ou les autres organismes de Portneuf. C'est des gens avec qui on va partager notre réalité, des enjeux sociaux, mais aussi des enjeux politiques qui nous concernent. Fait qu'on se rallie, ça fait une certaine force de poids en étant solidaire sur des actions communes. Le CIUS aussi, autant au niveau de notre bailleur de fonds principal, parce que dans le fond, nous, en étant financés en santé et services sociaux, nous sommes reconnus par le PESOC et c'est le CIUS qui maintenant fusionné. Mine de rien, c'est des gens qui vont souvent nous soutenir lors de nos activités bénéfices. Qui vont nous accorder parfois des gratuités, des rabais pour les jeunes, qui vont souvent nous aider à faire la promotion aussi de nos activités. Donc, oui, quotidiennement, On a un inventaire de partenaires et les autres locaux de jeunes, maisons de jeunes, les écoles.
Et si on revient un petit peu plus à ton horaire de travail, dans le fond, tu en as parlé un peu avec la conciliation travail-famille, que tu avais quand même une flexibilité. Dans le fond, tu as parlé aussi que tu faisais 35 heures semaine. Justement, ces 35 heures semaine-là, ils se placent comment dans ton horaire? Est-ce que c'est assez fixe? Est-ce que ça bouge?
J'essaie de la mettre le plus fixe possible pour que mon équipe sache quand je suis disponible. Puis, tu sais, je pense que ça va dans les deux sens. Autant quand je suis rendue à la maison. Alors, j'essaie le plus possible là, d'être disponible, tu sais, du lundi au vendredi, deux jours. Mais même, j'essaie maintenant de le faire en quatre jours parce que la réalité étant qu'il y a souvent des rencontres de soir. Et comme je suis 35 heures, se fait facilement et que j'essaie de faire que 35 heures en quatre jours, c'était un petit peu plus facile pour moi de ne pas déborder. Mais la réalité étant que j'ai la réunion d'équipe jusqu'à 5 heures les mercredis et les jeudis soirs, j'ai souvent mes comités de travail. Là. Donc, c'est ça. J'essaie le plus possible. Mais
au niveau du placement, si je ne me trompe pas, tantôt, tu as nommé que tu avais gradué en 2007. Puis, au niveau d'un technicien en travail social, quel était le placement après les études en 2007? Puis, est-ce que ça a évolué au sens où est-ce que c'est plus facile ou plus difficile à l'heure actuelle en 2021 de s'intégrer en technique de travail social?
J'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus facile. Il y a plus d'emplois que de travailleurs que dans mon temps. Par contre, il y a quelque chose que je trouve qui n'a pas tant changé, c'est plus au niveau de la stabilité. Il y a quand même quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps, c'est la qualité des conditions de travail, ce qui fait que je crois qu'on va beaucoup gagner à avoir une certaine popularité peut-être plus grande au niveau des travailleurs, même s'il y a encore un écart entre le réseau et il y a quand même une grosse amélioration, puis il y a plusieurs avantages à travailler dans le communautaire. Donc, oui, il y a une certaine évolution, mais il y a des choses qui sont encore à travailler, selon moi.
Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le métier que tu fais actuellement? Y a-t-il des choses que tu as découvert? Je sais que tu en as parlé un petit peu au début, là, plus de l'aspect organisation financière, tout ça, là, qui était comme une surprise pour toi. Y a-t-il d'autres choses que tu as découvert en arrivant sur le terrain que tu as fait « Oh mon Dieu, OK, je savais pas ça, ça aurait été bon à savoir. »
C'est la multitâche. Je pense que dans ma définition de poste, on aurait dû inclure toute autre tâche connexe direct en partant. Je ne peux pas nécessairement reléguer à quelqu'un d'autre. T'sais. C'est bon, ben c'est à toi. Quand ça vient à toi, c'est parce que c'est à toi de résoudre le problème. Oui, la variété de tâches, je ne pensais pas que ça allait être autant. Définitivement, comment gérer un budget, ça, c'est clair que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir même dans ma formation. Puis, savoir prioriser ce qui est le plus important des plus importants, parce que pour moi, tout est important. Savoir dire non. Non, les choses se sont apprises comme elles se doivent. Mais comme je suis personne débrouillarde, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. C'est juste que parfois, en 35 heures semaine, pour faire des choix. Donc, c'est là où ce que... c'est comme un tout.
On arrive à notre dernière question aujourd'hui. En fait, on aimerait savoir que tu crois que la COVID-19 va avoir des impacts à long terme sur ton métier?
Ah, définitivement. À court terme, on voit déjà des effets, mais à long terme... Je trouve que si le télétravail se maintient sur une base régulière, je ne suis pas du tout contre qu'il y ait certaines journées, qu'il y ait une formule hybride. Je trouve que c'est même facilitant. Mais si ça se maintient sur une base régulière, je trouve que ça l'éloigne vraiment la chaleur humaine. Tu sais, au niveau de nos contacts, tu sais, on parlait de concertation, on parlait de partenaires. Quand on ne les voit plus, ces partenaires-là, on dirait qu'on n'a plus la référence personnalisée. Il y a aussi la proximité physique qui est utilisée avec une grande prudence, là, on va se le dire. Ça va être aussi un grand réconfort pour notre clientèle. Les gens en ont besoin de ça. Et même si pendant plusieurs années, on s'est restreint, pas juste avec on s'est restreint de ces contacts-là, alors que les gens, parfois, c'est le seul besoin qu'ils ont, c'est de sentir une main sur l'épaule, d'être à côté de l'autre et de dire « ben je suis là ». Juste écouter, même pas besoin de parler, juste d'avoir ce sentiment qu'ils ne sont pas seuls. Il y a comme un réconfort. Pour moi, la pandémie, je pense qu'il va falloir accorder cette attention-là, de remettre tranquillement une saine proximité. Parce que c'est un besoin que les gens ont. Oui, c'est vraiment un besoin.
Super, ben c'est ce qui conclut notre entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Et c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à m'approcher pour partager mon expérience.
Au nom du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, nous tenons à remercier tous nos invités ainsi que tous nos auditeurs. Au plaisir de vous revoir dans un prochain balado. Restez à l'affût.